Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre.
L'humiliation au Moyen-Âge.
C'est l'infortuné roi de France.
Nul ne pouvait imaginer que...
A-t-on fait le compte de nos troupes?
J'ai relevé le nombre de chevaliers disparus, tout le sang.
Non, ceux qui restent, combien sont-ils?
Tout un vocabulaire lié à l'humiliation est revenu au jour ces dernières années. On l'a déployé par exemple pour peindre les avanies qui se sont accumulées sur les lieutenants du président Hollande. Nous avons été écrasés, éclatés, décapités, a dit l'un d'eux. On croirait entendre un récit médiéval de la catastrophe de Crécy au début de la guerre de Cent Ans. Des détails du même ordre étaient mis en avant à l'époque. Les chevaliers du roi portaient haut leur bannière et d'un coup d'un seul, ils ont mordu la poussière. Pareillement, les anciens ministres défaits sont d'abord, on va utiliser des clichés, décrits dans leur limousine noire. Elles pénètrent dans la cour du palais, leurs roues crissent sur le gravier, les huissiers se précipitent et voilà qu'aujourd'hui, les ex-excellences se heurtent aux portes fermées. L'humiliation, c'est la porte fermée et pie sous le regard de tous. Eustache Deschamps, au 14e, en a fait chanson. « J'ai une grande douleur dans la poitrine, je sens tous mes membres trembler, ce sont les signes de la mort. » Deschamps était un poète de cour. Il craignait de ne plus plaire à ceux qu'il avait choisis. Il décrivait donc l'humiliation comme une vieillesse soudaine, une dégénérescence. Mais quand François d'Assise raconte qu'il toquait en vain une nuit de détresse à la porte d'un des couvents de son ordre et qu'il s'envoyait refuser l'accès, lui, il faisait de cette humiliation une bénédiction. Pour lui, se trouver accompagné de dames persécution et de dames pauvreté, c'était un signe. Le Moyen-Âge, c'est cela, une tension entre, d'une part, des pratiques sociales banales qui nous sont toujours familières, l'humiliation malveillante qui dégrade les hommes, et d'autre part, une exigence morale issue de l'expérience du Christ. Depuis que Dieu incarné a accepté les souffrances de la passion, l'humiliation est comme retournée. Elle est devenue réversible. Au Moyen-Âge, elle est aussi un passage vers le salut.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bienvenue au Moyen-Âge avec Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
C'est le titre d'un de vos livres issu de chroniques de France Inter.
Voilà, oui, c'était Bienvenue au Moyen-Âge tout court, mais pas l'humiliation.
Ah non, l'humiliation, ça c'est un nouveau livre.
Voilà.
L'humiliation, et c'est pas tout court, c'est l'humiliation, c'est chez Albin Michel, l'humiliation, le Moyen-Âge et nous, Et moi, d'ailleurs, faudrait-il dire, parce que vous passez aux aveux au début de ce cours qui est devenu un livre, cours au Collège de France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu des difficultés à entrer au Collège de France? Vous avez eu des difficultés
non.
à entrer à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, dont vous êtes maintenant le perpétuel? Et c'est des humiliations que vous avez ressenties à ce moment-là que vous voulez parler?
Non, pas du tout. Dans ce domaine, je n'ai pas du tout été humilié, et même si peu humilié que j'en ai honte. J'en suis presque humilié. Non, mais j'ai toujours énormément souffert de l'humiliation que je sens chez les autres. Je m'identifie immédiatement avec une extrême violence aux humiliés, mais je dis moi, je crois que tout le monde est dans le même cas. Et je redoute terriblement l'humiliation pour moi-même, d'une façon, encore une fois, qui me fait honte, bien que je n'ai pas plus souffert de l'humiliation que quelqu'un d'autre. Alors, je croyais que tout le monde était dans mon cas, c'est pour ça que j'en ai fait un livre, puis je m'aperçois qu'autour de moi, une fois que le livre a paru, que certains me disent « Mais non, moi, j'ai pas tellement peur d'humiliation, etc. » Même ma femme.
Alors, votre livre, je vais pas vous questionner sur votre femme, mais sur vous. Votre livre invite quand même à la confession, à l'aveu, parce que qu'est-ce que c'est que cette phrase ? J'ai gravi les échelons de ma profession et des honneurs qui s'y attachent comme si j'étais poursuivi par l'eau qui monte. Il y a une faute qui vous travaille.
Non, alors, il y a probablement des fautes qui me travaillent. Nous sommes tous travaillés par nos fautes. Mais là, j'ai été étonné moi-même en écrivant cette phrase à la fin du livre et du coup, je l'ai laissée. Et il y a derrière quelque chose de très banal, je crois, et sans grand intérêt.
Qui est donc avouable.
qui est avouable, mais aussi un petit peu humiliant, parce que ça valait pas d'en faire un tel plat, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est que je suis entré dans le système universitaire avec une haute idée du système universitaire pour des raisons personnelles, familiales, pour toutes sortes de raisons. Et je suis entré avec un oral supérieur, je passais l'agrégation au premier moment, et tout après l'agrégation, il y a eu les événements de 68. Et j'ai commencé ma carrière comme assistant à la Sorbonne à l'automne 68, et avec l'idée, et j'ai été très sensible, moins à la liberté de l'esprit de 68, et ça c'est de ma faute, enfin ça, on peut me tomber dessus, qu'au fait que c'était une époque assez violente, finalement, où on était assez facilement humilié et qu'il y avait des stratégies d'humiliation. Et j'ai eu l'impression, dans le cadre d'une université qui ne ressemblait plus à celle dont je m'étais fait l'image, que j'étais obligé d'avancer pour ne pas justement être rattrapé par une sorte de mouvement menaçant. Mais voyez, je vous fais une confession qui fait ricaner tous ceux qui vous écoutent et qui sont
nombreux. Il y en a une autre qui est dans le livre, et si on a le temps, je me propose d'y revenir, mais à la fin de l'émission.
Bon, n'abusons pas de ce genre de choses.
Ben si, quand même, parce que vous dites, je m'identifie aisément aux humiliés. Alors, on va prendre une scène de cinéma. Et au cinéma, scène de chasse en Bavière. Ben justement, c'était un film d'après 1968 de Peter Fleischmann. Et le cinéma, ça permet de croiser les regards. Nous sommes dans un village de Bavière, mais c'est un peu un village médiéval. Enfin, dans l'esprit du cinéaste.
Dites ça aux Bavarois.
Au moment de la moisson, vous avez, il fait très chaud. Et puis, les gens commentent tous les défauts de l'infirme, de la prostituée, du fou... Et du PD, alors ça PD c'est 1970, au Moyen-Âge on aurait dit sodomite.
Fermez bien vos portes la nuit, on a un salopard au milieu de nous, faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai l'air de dire? Et tu le sais, vas-y, qu'est-ce que j'ai l'air de dire sans le dire?
Qu'est-ce qu'il a fait quand il était en ville, Abraham? Il a travaillé, c'est tout.
Il a travaillé mon cul, hein.
C'est presque on est sur son fils, si on l'a mis en prison, c'est bien pour quelque chose. Mais j'en sais rien, comment faut vous le dire?
Oh, je suis sûr qu'on arrivera à la connaître, la vérité sur ton fils.
Salut, Georges. Paula me disait qu'Abraham va avec des hommes. Tu te rends compte?
Ouais, c'est une jolie salope. Et c'est pour ça qu'il aurait fait de la tôle, imagine-toi.
Ouais. Bonjour, Anne-Laure. Qu'est-ce que tu veux?
Je suis venue au café hier soir, mais t'étais pas là. Écoute, Abraham, ils disent du mal de toi. Tout le village te traîne dans la boue.
Et après?
Ils disent que tu le fais avec les hommes. Je les crois pas, tu sais. Mais les gens le disent.
Marchez bien en ligne. Et regardez aussi dans les arbres. Cherchez les traces.
Il est sûrement pas dans ce coin. Aïe, salope,
Edronce. Venez par ici.
Et le village va faire la chasse... au sodomite, l'humiliation, ça a toujours, dites-vous, Michel Zinc, à voir avec la sexualité.
Oui, c'est comme cela que je le ressens. C'est une sorte de, c'est un viol. L'humiliation est une pénétration de l'intimité qui réduit celui qui en est victime à rien. Cela dit, l'humilier peut varier. Et il y a des époques où on humilie telle catégorie, d'autres époques où on humilie telle autre. Et comme vous l'avez bien dit, comme on l'entend très bien dans cet extrait, l'humiliation est dans le regard qui est porté sur quelqu'un. Il n'y a pas d'humiliation objective. Tout est dans l'idée qu'on s'en fait. Et là, dans l'idée qu'on s'en fait de celui qui est soupçonné d'être homosexuel, etc.
Mais alors, sans soupçonner aussi dans le village de Bavière... Je ne veux pas faire l'équivalence Bavière Moyen-Âge, mais les simples d'esprit, le fou au Moyen-Âge. Vous pouvez d'ailleurs nous le décrire physiquement, parce que vous insistez sur son portrait.
Oui, alors, il y a le fou au Moyen-Âge n'a pas de portrait caractéristique. Celui qui a une apparence caractéristique, c'est l'homme sauvage, qui est souvent fou pour une raison d'ordre sexuel et l'homme sauvage se rapproche naturellement du pays, ou plutôt le paysan est comparé à un homme sauvage. Alors on décrit le vilain avec les yeux très écartés, de grosses lèvres, il est bossu, il est hirsute, il est très velu, etc. Bon.
Et il a une massue.
Et il a une massue qui est le signe de l'homme sauvage. L'homme sauvage n'est pas nécessairement humilié en tant que tel, il peut être redouté. Le paysan peut être humilié par l'homme ou la femme d'une classe supérieure parce que c'est un paysan. L'inverse peut se produire aussi. On peut être humilié par le regard d'un inférieur qui ne vous prend pas pour ce qu'on croit être, qui refuse de vous voir, de voir en vous ce que nous voulons être, qui refuse de comprendre ce que nous sommes et qui oppose un ricanement buté à tout ce qu'on peut lui dire. Nous avons tous fait l'expérience de cela, de faire des frais avec quelqu'un qu'au fond de nous-mêmes, même si nous ne l'avons pas, nous considérons comme un inférieur, qui se rend très bien compte et qui refuse de comprendre. Et le Moyen-Âge est très fort, la littérature du Moyen-Âge est très forte pour laisser entendre ces différentes formes d'humiliation croisée. L'humiliation ne débouche pas toujours sur la violence. On peut essayer de l'isoler, de la violence.
Et elle se déploie sous forme de regards croisés et sous forme de représentation. Vous parlez de la littérature, votre livre il est fondé sur des textes littéraires du Moyen-Âge ou d'un peu au-delà, comme ici, Le Marchand de Venise, Shakespeare.
Il m'appelait usurier. Hein. Qu'il prenne garde à son billet. Qu'il prêtait de l'argent pour rien. Qu'il prenne garde à son billet. Il n'a cessé de me couvrir d'opprobre et se le marasse avec moi. Il a traversé tous mes marchés, éloigné de moi mes amis, surexcité mes ennemis. Et pour quelle raison? Je vous le demande. Parce que je suis juif. Est-ce qu'un juif, pourtant, n'a pas des yeux? Est-ce qu'un juif n'a pas des mains, des organes, des sens, des sentiments, des passions, comme vous? Est-ce qu'il n'est pas nourri des mêmes aliments, blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, chauffé par le même été, glacé par le même hiver qu'un chrétien? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous donnez du poison, est-ce que nous ne mourrons pas? Alors, si vous nous outragez, pourquoi est-ce que nous ne nous vengerions pas? Si nous sommes comme vous pour tout le reste, nous vous ressemblons aussi en cela. Quand un chrétien est outragé par un juif, est-ce qu'il pend l'autre jour? Non! Il se venge!
Henri Roland, dans une adaptation à la radio de Claude Henri Paget. Là, c'est l'humilié qui secoue le joug de l'humiliation.
Oui, voilà. Et il... qui s'en prend, le passage est justement célèbre au-delà de toute expression, qui le désigne exactement la source de l'humiliation, qui est le regard qui veut faire de l'humilié quelqu'un de différent. Et il essaye d'abolir ce regard en disant que ce regard ne voit rien, puisque tout le monde est pareil. Et ce n'est pas par hasard si cette tirade a été reprise de façon à la fois comique, mais d'un comique terrible, dans To Be or Not To Be, enfin dans le film de Lubitsch, dans le contexte de la Pologne occupée par les nazis.
L'humiliation est nous, au Moyen-Âge. Nous allons changer de tonalité, là. Rudebeuf, différents passages de ses poèmes, nous sommes à la fin du XIIIe siècle, ont été montés et interprétés ainsi par Léo Ferré. On n'est plus dans l'humilié vindicatif, certes pas.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte, et les emporta. avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qui n'aille à terre. Avec pauvreté qui m'atterre, qui de partout me fait la guerre, au temps d'hiver. Ne convient pas que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière.
Michel Zinc, qui est notre invité, a édité les œuvres de Rudebeuf. Livre de poche, collection lettres gothiques.
Exactement.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la traduction ici. Comment je me suis mis à honte, dit Rudebeuf, qui énumère toutes les pertes qu'il a accumulées.
Alors, ce n'est pas une traduction, c'est le texte. D'ailleurs, ce qui rend la chanson de Léo Ferré admirable, c'est d'une part que c'est un montage de plusieurs poèmes de Rudebeuf, et d'autre part qu'il garde le plus possible le texte original, et donc quand on comprend, la vigueur des expressions apparaît. Je me suis mis à honte, et là est l'humiliation de Rudebeuf. La chanson, c'est une chanson qui tire les larmes, c'est une des plus belles chansons qui existent, mais elle insiste, elle tire Rudebeuf du côté de l'élégie, en quelque sorte. Alors que ces poèmes qui n'étaient pas chantés étaient plutôt, relevaient plutôt du one-man show et d'une sorte d'exhibition de soi-même de façon à faire rire. Il dit, je me suis mis à honte, j'ai attiré sur moi la honte parce que il déballe toutes ces misères qui sont en même temps toutes ces fautes. Il fréquente la taverne, il boit, il joue, il est déraisonnable, il a épousé une femme qui était vieille, pauvre, moche, il ne sait pas quoi faire, il n'a pas de quoi entretenir son train de maison, etc. Et il fait rire de lui-même avant que les autres en rient, en se présentant comme un misérable, misérable matériellement, mais aussi moralement.
Oui, mais l'exhibition de soi sur les planches, c'est une planche de salut aussi.
C'est une planche de salut, parce qu'il termine en demandant de l'argent.
Il dédie ses... Oui, mais il dit aussi que Dieu est à ses côtés, Michel Zinc.
Ah, le...
Quand je dis salut, c'est...
Oui, ah oui, oui, de salut, oui. Alors ça, le... Il y a d'autres poètes dont nous parlerons peut-être qui sont dans ce cas. Rudebeuf, lui, a écrit des poèmes religieux, mais qu'il sépare des autres. Mais dans ses poèmes de la misère, en s'humiliant, il reconnaît ses fautes devant Dieu, il espère bien être aidé. Mais la tonalité est plus sarcastique vis-à-vis de lui-même et des autres, et a quelque chose de plus lamentable, en quelque sorte. S'il se tournait vers Dieu, il y aurait une sorte de grandeur qu'il ne cherche pas, au moins dans ses poèmes.
Alors on va aller plus loin, toujours dans la même tonalité, mais en lui donnant l'aspect de la glorification du salut, avec ses poètes que vous citez longuement, d'une école un peu oubliée aujourd'hui, mais qui était très importante au XIIIe siècle, c'est l'école d'Arras, voilà. D'où sont issus deux lépreux qui, au moment où ils contractent la lèpre, donnent congé à leurs amis.
Voilà, oui, donnent congé, ou prennent
les congés, c'est le titre de leur
oui,
œuvre.
Ils appellent leur poème. Un premier poète, qui était un poète très, très connu, très admiré, avec une œuvre très variée, Jean Baudel, devient lépreux en 1202, et il écrit ce poème en prenant un type strophique qui était assez récent et qui était utilisé pour une poésie religieuse, morale, d'introspection. Et il prend congé de tous ses amis d'Arras, que nous connaissons, une ville que nous connaissons très très bien, avec une vie littéraire très très vivante, et il se retire dans une léproserie où il mourra en effet 8 ans après. Et puis, 70 ans plus tard, un autre poète, Baud Fastoul, devient lépreux, et il imite, en somme, Jean Baudel, en écrivant à son tour ses congés. Jean Baudel devient devient lépreux à un moment où il allait partir pour la croisade. Donc il perd en somme le bénéfice de la croisade et il peut penser que la malédiction de Dieu s'est abattue sur lui. La lèpre était quelque chose d'horrible. Puis on soupçonnait le lépreux ou ses parents de fautes diverses et variées, généralement d'ordre sexuel justement. Et le poème, en même temps que c'est un adieu à ses amis, en même temps que il explique qu'il préfère partir avant qu'on le chasse, en même temps qu'il prend les devants en se moquant de lui-même avant que les autres se moquent de lui, en partant avant qu'on le chasse, encore une fois, c'est en même temps une réflexion pour essayer de trouver une grâce dans ce malheur.
C'est donc de l'humiliation consentie, et c'est là qu'il faut en venir quand même, c'est au centre de votre livre, l'incarnation, fondement du christianisme, fondement donc du Moyen-Âge. Dieu incarné en la personne du Christ a accepté les douleurs de la passion et l'humiliation, du coup, change de sens.
Oui, humilité et humiliation ont la même racine, c'est humus, la terre, c'est être au niveau de la terre, au plus bas que terre. Et ces mots, dans l'Antiquité classique, ne sont jamais pris en bonne part. Humilis, en latin, est toujours péjoratif. Tapeinos, en grec, toujours péjoratif. Et le retournement vient du christianisme et de l'idée que Dieu, Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, Dieu s'est abaissé, s'est humilié en se faisant homme. Et il a accepté cette condition d'homme jusqu'à l'humiliation de la croix. Et en même temps, le christianisme invite à des valeurs, la pauvreté, l'oubli de soi-même, etc., le détachement du monde, qui sont à l'inverse des valeurs du monde, qui recherchent l'honneur, la gloire, les honneurs, etc. Et d'où une tension au Moyen-Âge entre cette société chevaleresque, mais féodale, cette société de l'honneur, et cette religion qui est la sienne, de l'humilité allant jusqu'à l'humiliation, et de là vient, me semble-t-il, il nous en reste cette tendance à être du côté de l'humilié.
Alors cette tension, la voilà qui s'exprime dans un personnage étonnant auquel vous consacrez beaucoup de pages, c'est le plus beau chevalier qui soit, c'est pas du tout un homme humble, c'est Lancelot. Mais pour l'amour de Guenièvre qui lui impose vraiment toutes les épreuves de l'amour courtois, est-ce qu'il n'est pas capable de passer par l'humiliation? Alors la reine a été enlevée par le géant Méléagant, Lancelot est à sa poursuite. Il est interprété ici par Jean-Pierre Santier. C'est une adaptation de Claude Duntong. Vous savez, il avait utilisé des comédiens québécois pour que ça fasse un peu...
Oh, mais je me rappelle très bien. Enfin, ça montre que je suis vieux, mais je me rappelle très bien.
C'était en 1975. Et c'est le jeune Jacques Villeray qui joue le rôle d'un nain, parce que Lancelot arrive à la hauteur d'une charrette. La charrette, sa mauvaise réputation, tenue par un nain. Un nain, c'est quand même un homme de peu.
Est-ce que t'as vu passer Madame la Reine?
C'est ta dame, la Reine.
T'occupe pas. Est-ce que tu l'as vu passer par ici?
Oui, je l'ai vu.
Et où est-ce qu'elle allait? Tu sais?
Oh, je lui ai pas demandé. Elle avait l'air d'être en voyage.
Hein? T'as bien vu de quel côté elle se dirigeait, non?
Oui, sauf qu'elle se dirigeait pas toute seule.
Dis-moi seulement où elle est allée.
Alors je te propose une affaire. Tu montes sur ma charrette et je te conduis à un endroit où tu pourras la voir.
Sur ta charrette?
Oui, sur ma charrette.
Pour qui tu me prends?
Oh là là, je te prends ou je te laisse, ça dépend de toi. Et puis si t'as peur d'être déshonoré, va te faire foutre.
Oh dis donc, espèce de demi-portion.
La demi-portion, elle te dit merde. Ah! Allez, ah! Allez, monte! Allez! Allez, saute, vaillant chevalier, là! C'est pas commode, hein, avec ton barbe. Allez! Allez, accroche-toi! Oh! Yes!
Vous avez entendu, elle a mis un bon moment, cette charrette qui symbolise le pilori, Chrétien III, mais 25 vers à nous l'expliquer. Elle a roulé un bon moment avant que Lancelot se résolve à monter dedans.
Et oui, d'ailleurs, ça lui sera reproché. Oh, un bon moment, le temps de faire trois pas pendant que amour et raison se disputent dans sa tête.
Mais Guenièvre.
Et Guenièvre,
lui reproche pas d'être monté dans la charrette, mais de ne pas avoir monté tout de suite.
D'avoir hésité et le temps de faire trois pas avant de se déshonorer pour elle. Et voilà. Mais cette humiliation consentie est le signe, la pierre de touche de l'amour. Et plus loin, Guenièvre l'utilise encore. Lors d'un tournoi, un chevalier anonyme est le grand vainqueur. Elle soupçonne que c'est Lancelot. Et pour en être sûre, elle envoie sa suivante lui dire de faire au pire. Et à ce moment-là, il se conduit comme un lâche, il se fait battre, etc. Elle est donc sûre que c'est Lancelot. Il suffit de lui dire de faire au mieux pour qu'il se batte très bien. Donc l'humiliation consentie par amour, c'est transposer dans le domaine de la passion amoureuse cette humiliation chrétienne qui est l'oubli de soi. Il y a un amour plus grand que l'amour de soi-même, qui fait que on consent à quelque chose d'intolérable pour soi-même. C'est pour ça que Aragon a repris cette image du chevalier de la charrette.
Madame dans un de ses veut poèmes. Savoir que rien ne m'humilie, par elle demander tout sans métamorphose. Elle exige de moi de si terribles choses qu'il faut que mon cœur saigne et que mon genou plie. On me verra trembler, mais non pas lui faillir.
Voilà, c'est ça. Et c'est dans le contexte de la résistance. Ouais. La dissimulation qui paraît honteuse de celui qui, en fait, lutte pour son pays.
Tenez, à propos de dissimulation, la confession des fautes secrètes n'est pas obligatoirement secrète. Elle peut aussi être publique. C'est tout un débat, ça, au Moyen-Âge. Je n'avais pas tout dit tout à l'heure. Si la mère monte, que vous la sentez derrière vous dans votre habit d'académicien, qui monte... C'est qu'il y a une faute d'enfance aussi, dont vous parlez, et qui est importante dans le déroulement du livre, dans le dépliement du livre.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est pour cela que j'ai senti en montée, j'ai bien peur que non.
Mais
ce sera
qu'est-ce,
trop
que, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez injurié quelqu'un?
Non, je dis que je donne cela simplement, c'est pas pour me conseiller, mais pour donner un exemple du fait que les petites humiliations qu'on inflige, on en inflige constamment, là. Ce sont les pires, non seulement pour celui qui les reçoit parce qu'il ne peut pas se défendre, mais aussi pour celui qui l'inflige parce que on le fait impunément. Et je cite un exemple d'une petite humiliation dite sur le ton de la compassion et de la gentillesse que j'avais infligée à un de mes amis d'enfance, quelqu'un que j'aimais beaucoup quand j'avais une dizaine d'années. Et je donne ça simplement
et
comme
son
exemple.
Son père avait tort de boire et vous le lui avez reproché.
Et je n'ai pas reproché, mais j'ai dit, oh là là, c'est triste, enfin comme ça, sur le ton de la compassion. Et c'était horrible, horrible. Mais peut-être que lui n'y a pas fait attention. Alors, je pourrais le retrouver, enfin c'est affreux de me faire dire ça ici. Mais...
Bah, c'est vous qui avez commencé dans votre cours et dans votre livre.
Bah oui, peut-être. Oui,
et puis c'est vous qui avez cette interprétation.
J'avais du monde à mon cours, mais pas autant que pour vous écouter.
Bah oui, mais comme ça vous allez peut-être le retrouver, votre camarade, mais puisque c'est un début du livre.
Je peux le retrouver.
C'est curieux cette interprétation que vous faites de saint Matthieu. L'injure méprisante serait plus grave que le meurtre.
Oui, c'est comme
vous
ça.
Pensez ça, vous.
Et oui. Enfin, je le pense évidemment cum grano salis, parce que, le tuer, c'est quand même quelque chose. Mais enfin, on peut comprendre qu'on tue par passion, qu'on tue par peur, qu'on tue par humiliation, qu'on tue dans un élan de colère irrépressible. Là. Mais humilier quelqu'un, mais trouver la formule ou l'attitude ou le sourire ou le petit geste qui est blessant, qui réduit à rien, eh bien, cela...
C'est tout un art.
C'est tout un art, et pour moi, c'est impardonnable. Enfin, c'est ce qui est le plus difficile à pardonner. C'est en ce sens que je trouve que c'est pire.
Merci à vous, Michel Zinc. Bienvenue au Moyen-Âge, c'est toujours disponible aux éditions des Équateurs et aux éditions Albin Michel, ce nouveau livre, L'humiliation, le Moyen-Âge. Et nous, l'émission avait été préparée par Franck Olivard avec la réalisation Valérie Estaraï, à la technique Loïc Frapsos. Et chez vous, enfin des vertus chrétiennes,
oui.
Mathieu Vidard.
Vous parliez de saint Matthieu, eh bien nous voici Jean, pour parler de solidarité effectivement, et puis de thèse en 180 secondes, car nous avons avec nous les trois gagnants du concours.
Bon, je vais pas vous faire perdre de temps.